Salut.
Bonjour.
Salut. Bonjour. Chers auditeurs, chères auditrices.
C'est Radio-Lab.
Roman sur Isère.
Collège La Passa.
Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur Radio Lab, la radio du collège Étienne-Jean La Passa. Nous sommes la classe de 6e 2, nous nous appelons Lucas et Noah. Nous sommes aujourd'hui avec deux invités, Karen Nguyen et David Carmona. Ils ont fondé Unfriendly Game.
Nous les recevons aujourd'hui car nous travaillons en ce moment sur un projet s'appelant Adopte un jeu. C'est un projet où on joue avec toute la classe pour avec un jeu de société et on a choisi Nekojima. Nous allons à présent vous poser des questions.
Eh ben, tout d'abord, bonjour Lucas et Noah. Merci pour l'invitation au collège La Passa. Et merci beaucoup d'avoir choisi Nekojima dans le cadre de Adopte un jeu. On espère que vous avez passé tous et toutes de super moments avec notre jeu. Donc moi, je suis David Carmona, comme vous l'avez dit tous les deux au micro, et je suis auteur et éditeur. Et voici du coup...
Karen Nguyen, donc également autrice et éditrice chez Unfriendly Games.
À quel âge avez-vous créé votre premier jeu ?
Notre premier jeu remonte il y a 5 ans, c'est bien ça, David ?
Oui, c'est ça. Du coup, t'avais quel âge, Karen ?
Voilà, alors du coup, j'avais 23 ans.
Est-ce que c'est facile de travailler à deux ?
On se complète bien avec David Carmona, donc effectivement, on va pouvoir travailler en symbiose et on se complète sur aussi nos compétences, donc c'est plutôt une grande force.
En fait, c'est important de pas forcément avoir les mêmes compétences, histoire de pouvoir vraiment séparer les tâches que l'on doit faire chacun de notre côté. Par exemple, Karen va avoir certaines tâches que moi, je ne sais absolument pas faire et sur lesquelles, en fait, je lui fais totalement confiance.
Et vice-versa, bien sûr.
Quelles sont vos autres passions dans la vie ?
Les voyages, la randonnée.
Voyage, randonnée, un peu de musique, un peu... Qu'est-ce qu'on fait d'autre, Karen ? C'est vrai qu'on fait beaucoup, beaucoup de choses.
La cuisine.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer Nekojima ?
Nekojima, alors déjà de base, on n'était pas forcément dans le milieu du jeu. On a créé notre premier jeu Virus War à partir d'un rêve. Et Nekojima, il s'en est suivi de cette aventure avec des travaux, la rénovation d'une maison, avec des tourillons en bois qui traînaient un petit peu à la maison. Et on s'est dit, ah, on pourrait faire un jeu effectivement à partir de ce matériel.
Mais en gros, pour vous raconter un petit peu la genèse de notre maison d'édition, c'était en 2019, je crois, c'est ça ?
Ouais.
En 2019, j'ai fait un rêve au mois de juin. J'ai rêvé d'un jeu de société qui s'appelle Virus War. J'avais toutes les règles dans ma tête. Et c'est le matin au réveil que j'en parle en fait à Karen et on écrit les règles dans un parc. Et là, on s'est dit, ouais, ça peut faire un super jeu. Et en fait, on l'a fait essayer à notre entourage, nos amis, la famille. Tout le monde a vraiment aimé le jeu. Et du coup, on s'est dit, ben, autant vraiment l'éditer et en faire en fait un vrai jeu. Qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, à ce moment-là, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut faire pour lancer ce jeu ? Donc du coup, on a fait une campagne de financement sur Internet, c'est-à-dire qu'on a fait appel à des dons, à des gens qui pouvaient précommander le jeu, et ensuite, ça nous a permis d'avoir du budget, de l'argent donc, pour pouvoir payer la fabrication de ce jeu-là.
Et c'est comme ça qu'on a commencé notre aventure.
Exactement.
Donc ça, c'était le premier jeu, Virus War, et Nekojima est le second.
Mais les choses ne sont pas forcément passées comme prévu, parce que le jeu s'appelle Virus War. Mais rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? Il y a eu le Covid. Nous, on avait eu idée, du coup, d'avoir un jeu qui s'appelle Virus War avant que le Covid arrive. Et les gens, bah, souvent, ils ont fait l'amalgame. Donc, ils ont fait un peu la comparaison entre le Covid et ce jeu-là.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Avec plaisir.
Nous laissons la parole maintenant aux autres journalistes, Kélis et Noam.
Bonjour.
Bonjour, Kélis.
Bonjour. Nous reprenons alors cette émission pour votre parcours avec nous, Kélis et Noam. Pour commencer avec les questions, quelles études avez-vous fait avant d'être auteur et éditeur ?
Alors, j'ai suivi un cursus DUTTC, technique de commercialisation. J'ai également fait une école de commerce avec une spécialité marketing.
Alors moi, c'était un petit peu plus compliqué. J'étais pas forcément adepte de l'école, quoi. Je sais pas si c'est l'école ou moi qui nous aimions pas, Bref, en tout cas, c'était un peu complexe. Donc, en fait, j'ai pas eu mon brevet des collèges. Et j'ai dû faire un BEP topographie. Et en fait, là, je me suis découvert quelque chose. En mode, genre, je voulais pas du tout faire le BEP que j'étais en train de faire. Mais du coup, en fait, pour continuer dans la vie, il fallait au moins que j'aie un bac. En tout cas, c'était ce qu'on me disait. J'ai persisté, j'ai eu mon BEP, j'ai eu mon bac. Et ensuite, j'ai essayé la fac. Et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. J'ai arrêté les études et directement, j'ai monté une entreprise.
Comment avez-vous commencé votre carrière d'auteur et éditeur ?
Donc, comme on disait précédemment, effectivement, c'est à partir d'un rêve qu'on a commencé comme ça cette aventure.
Mais on n'était pas du tout voué à être auteur-éditeur, à vrai dire, quand on a commencé cette aventure, comme dit Karen. Eh ben, on a fait le travail d'un auteur et d'une autrice et d'un éditeur. Mais en revanche, on ne savait pas du tout ce que l'on faisait. On était là, bon, bah ok, on a fait ça. Et les gens nous ont dit, ah ouais, bon, vous êtes auteurice et éditeur de jeux. Et là, on a dit, bon, ben peut-être. Mais en fait, ouais, c'était le cas.
Bah, de ce que j'ai compris tout à l'heure, vous avez créé des jeux avant Nekojima.
C'est ça.
Il s'appelle Virus.
Virus War.
C'est à quel moment de votre vie avez-vous l'idée d'être auteur et éditeur ?
À la suite justement de Virus War, on s'est dit, ah tiens, on aime vraiment faire ça. Alors sur ce premier jeu, on a eu fait des erreurs et on s'est dit, bon, on a un deuxième jeu auquel on pense, auquel il y a un fort potentiel, donc Nekojima, et on s'est dit, là, on va faire les choses différemment. Et on a été voué à apprendre de nous-mêmes et à être un bon éditeur.
En fait, Virus War nous a permis de mettre un premier pied à l'étrier, de connaître un petit peu comment se passe et comprendre un peu l'univers du jeu. Parce que c'est pas commun, le jeu de société. C'est comme un peu comme le jeu vidéo. Il y a des choses qu'on apprend sur le tas et qu'on ne nous apprend pas forcément à l'école. Donc il a fallu s'approprier le monde du jeu et voir comment ça fonctionne. Donc on a tout essayé. On a essayé de faire de la vente aussi un peu en magasin. On a essayé de faire de la création graphique. On a essayé de faire tout un tas de mécaniques de jeu. Et en fait, de ci et de là, en fait, on a appris à acquérir des compétences qui nous permettent aujourd'hui d'être auteurice de jeux de société.
Bon, bah, merci d'avoir répondu aux questions. On va laisser parler les autres journalistes.
Avec plaisir.
Avec plaisir, merci.
Merci pour vos questions.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Bonjour.
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 Après avoir écouté votre parcours, nous allons vous poser quelques questions sur vos métiers. Je nous présente Florine et Elia. Qu'est-ce qui vous a fait choisir votre métier d'auteur et éditeur ?
Bonjour Florine, bonjour Elia. Du coup, le fait d'avoir choisi ce métier, c'est surtout un métier passion.
En fait, on s'est découvert de l'entrain dans ce métier-là, parce qu'en fait, ça regroupe énormément de compétences. On va être sur la totale liberté créative. En fait, on va commencer par imaginer une mécanique de jeu. Et ensuite, derrière, on va entamer par toute une recherche d'illustration, de conception, chercher des usines de fabrication. Et donc, ça regroupe vraiment tout un panel de métiers qui nous plaît. Parce que la seule, la seule limite, c'est l'imagination.
Préférez-vous faire auteur ou éditeur en premier ?
Les deux, ça fait partie de notre quotidien. Hein. Pour le moment, alors là, on est sur un nouveau projet sur lequel nous ne serons pas les auteurs. C'est une sortie qui va être prévue pour octobre. Et c'est un autre concept, en effet, de ne pas forcément être l'auteur. Mais les deux se complètent.
Moi, personnellement, je préfère être auteur. Parce que, faut dire ce qui est, j'ai quand même beaucoup moins de goût que Karen sur la conception graphique, donc sur le choix des illustrations, sur tout un tas de choses. Donc je préfère me cantonner à la création de mécaniques. Et après, Karen, elle est en roue libre sur le choix des illustrations.
Après, c'est vrai que j'aime beaucoup la partie éditoriale, tout ce qui est développement du jeu, de voir vraiment toute l'admiration et la beauté du jeu. Mais c'est vrai que les deux vont ensemble.
Faites-vous un autre métier à côté de auteur et éditeur ?
Non, nous sommes à temps plein sur l'édition.
Que vouliez-vous faire étant petit ?
En primaire, je voulais devenir vétérinaire et ensuite, au collège, j'ai voulu être kinésithérapeute.
Et vous ?
Étant petit, je voulais travailler avec les animaux. Mais du coup, j'ai réalisé mon rêve. Quand j'ai arrêté l'école et quand j'ai arrêté ma première société, donc je vous avais dit tout à l'heure, après les quoi j'avais monté une entreprise qui a duré 4 ans. Quand j'ai fermé mon entreprise, je suis parti voyager. J'ai voyagé pendant 7 ans. Et en fait, durant ces 7 années, j'ai appris la photographie et j'étais du coup photographe animalier.
Pouvez-vous expliquer plus précisément le métier d'éditeur ?
Éditeur, c'est développer un jeu. C'est aussi trouver une direction artistique, donc être en lien avec un illustrateur, faire le suivi également de fabrication, choisir le matériel, l'embellir, et puis bien sûr le commercialiser.
Souvent, un éditeur, il va partir d'une mécanique. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs derrière qui vont créer des mécaniques de jeu. L'éditeur, lui, il va croire en cette mécanique. Donc en fait, il va prendre cette mécanique-là, et puis il va choisir quel artiste va venir dessiner sur les cartes, ou sur un plateau, ou peu importe le support, pour en donner quelque chose de vivant. Et une fois que c'est vivant avec tout cet art, et ben là, du coup, l'éditeur va devoir choisir une usine de fabrication, s'occuper aussi de l'importation par rapport à là où il a fait fabriquer son jeu, que ce soit en Europe, en Chine ou en France.
Quelle est la procédure pour faire un jeu ?
Donc ça, c'est la première partie Autora. C'est imaginer un jeu, on peut partir d'un thème, on peut partir du matériel, d'un univers.
Où préférez-vous travailler ?
On a actuellement rénové un local et pour le moment, effectivement, c'est la meilleure, le meilleur endroit où on aime travailler.
En fait, pour bien travailler en tant qu'auteur et éditeur, c'est un peu comme de partout, peu importe le métier que tu fais. Je pense que c'est important de travailler dans un environnement qui te plaît, dans lequel tu te sens à l'aise, où tu peux t'épanouir. Et nous, avec Irène, on a eu la chance de pouvoir en fait acquérir un local qu'on a rénové à notre goût. Et c'est dans ce local-là qu'on imagine et qu'on crée des prototypes de nos jeux.
Après, c'est vrai qu'on n'est pas cantonné à un seul endroit, donc on a la chance de pouvoir pas mal se déplacer.
C'est ça, on n'avait pas envie d'être fixe quelque part. On n'avait pas envie d'être sédentaire, on appelle ça comme ça.
Mais il nous fallait quand même un local. Et celui-ci, il est vraiment très bien.
On vous invite d'ailleurs à venir nous rendre visite à l'occasion.
Avez-vous déjà édité d'autres jeux que les vôtres ?
Comme je disais, donc pour le moment, nous avons sorti des jeux dont nous sommes les auteurs et une prochaine sortie pour octobre, dont nous ne sommes pas les auteurs.
Donc en fait, là, pour le coup, c'est un jeu japonais. C'est des Japonais, donc une maison d'édition japonaise, qui nous ont envoyé leur jeu et qui ont pensé que nous serions les éditeurs favoris, on va dire, sur l'édition de ce jeu-là sur la France. Donc en fait, quand on a une maison d'édition d'ailleurs qui nous contacte ou qui nous envoie un jeu, et quand nous on l'adapte au marché français, on va appeler ça du coup une localisation. En fait, on va traduire la langue du jeu pour l'implanter, pour le mettre dans les boutiques en France.
Gagnez-vous votre vie avec ces métiers ?
Oui.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Avec plaisir. Vous êtes
toujours sur Radio Lab, la radio du collège Étienne Jean Lapassa. Nous allons laisser le micro du coup à nos camarades Jules et Zaineb.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Nous allons plutôt vous parler de votre jeu Nekojima.
Oui.
Comment les règles du jeu vous sont venues à l'esprit ?
Lors de travaux, les travaux de notre maison, on avait effectivement des tourillons qui traînaient à la maison, des tourillons en bois. Et on s'est dit, ah bah tiens, on peut faire quelque chose avec ce matériel. Et on a pensé à relier ces tourillons avec du lacet. Et ça, c'est comme ça que l'idée de Nekojima est arrivée. On s'est dit, ah tiens, on peut faire un jeu de dextérité en manipulant nos deux mains. Parce qu'on s'est rendu compte aussi dans le jeu de dextérité, souvent les jeux, bah, c'est qu'une seule main que l'on manipule. Et là, le fait de relier deux objets par une corde, on va pouvoir manipuler les deux mains.
Donc vous l'aurez compris, les tourillons, en fait, c'est des poteaux en bois que l'on a dans Nekojima. Et ça, souvent, bah, on peut s'en servir pour des travaux de menuiserie ou choses comme ça. Et nous, c'était des chutes qui nous restaient suite à nos travaux.
Okay.
Et puis après, le jeu de dextérité est arrivé. On a pensé à suspendre des choses sur les cordes. On a pensé à des chaussettes, à du linge, à des oiseaux. Et les chats, du coup, étaient l'idée qui est restée.
Voilà, parce que souvent, on aurait pu se dire, tiens, on peut mettre des singes, etc. Mais au final, au Japon, il existe réellement des Nekojima. Moi, j'ai habité un peu plus d'un an au Japon et du coup, j'ai déjà vu ces îles et ça me paraissait un peu évident que ce jeu-là allait s'appeler Nekojima.
Ok. Combien de temps cela vous a pris, Nekojima ?
On a mis 2 années.
À peu près. C'était un petit peu long parce qu'il a vraiment fallu choisir les bons matériaux, savoir comment bien communiquer, puis mener aussi, comme on l'a dit précédemment, une campagne de financement sur Internet afin de pouvoir lever des fonds, donc récupérer quand même de l'argent afin d'avoir suffisamment de moyens pour payer la fabrication. Parce que vu qu'on est sur un jeu en bois, les jeux en bois coûtent un peu plus cher qu'un jeu de cartes classique.
Et puis, il y avait la partie toute de la communication où là, effectivement, on était présent dans tous les festivals du jeu en France. Donc ça, ça a été effectivement plusieurs mois effectivement, d'animation.
Il a fallu aller rencontrer le public et puis séduire le public. Lui prouver que notre jeu est bon et qu'il fallait qu'eux aussi y croient. Et en fait, de voir l'engouement du public nous a aussi motivés, nous, à continuer à faire des festivals, à rencontrer un maximum de gens, à récupérer leur adresse email, leur numéro de téléphone. Et puis, une fois qu'on avait lancé la campagne sur Internet, on leur envoyait un petit message.
Est-ce que Nekojima signifie quelque chose et pourquoi ce nom ?
Nekojima signifie l'île des chats au Japon.
Et il y en a 19 au Japon de ces îles. Les Japonais, ils aiment bien donner des petits noms à leurs îles en rapport avec les animaux qui y vivent.
Est-ce que Nekojima existe au Japon ?
Alors, Nekojima, le jeu, tu veux dire ?
Oui.
Alors oui, on a un partenaire qui s'appelle Hobby Japan, qui est du coup un éditeur et un distributeur au Japon, qui distribue Nekojima. Okay. Et il y a aussi un manga, mais qui n'a rien à voir avec notre jeu, qui s'appelle également Nekojima.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Bah avec plaisir, merci
avec plaisir,
à vous deux.
Merci, merci à tous les deux.
Nous vous laissons avec Ryan et Matteo.
Ah ok, super. Bah, bonjour Ryan et Matteo.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes toujours sur Radio Lab, la radio du collège, et nous allons vous poser maintenant des questions sur vos projets. Est-ce que vous allez faire un autre jeu dans l'avenir ?
Oui. Après Nekojima, on a créé Dungeon Exit. Je ne sais pas si vous connaissez celui-là.
Non.
Non, on est sur un jeu de logique. Et ensuite, on a imaginé un autre jeu de bluff et de rôle caché qui s'appelle Heroes Love to Lie. Et là, actuellement, on est sur un nouveau projet, comme je disais. Donc, c'est, le jeu s'appelle Le chat et la tour. C'est un jeu de dextérité aussi, et ça sort en octobre.
Mais on passe constamment notre temps à essayer d'imaginer des nouvelles mécaniques de jeu afin de pouvoir avoir un peu d'avance sur les années qui suivent.
Et vu que c'est un process long, effectivement, il faut avoir un coup d'avance.
Il faut au moins réfléchir un an, voire deux ans à l'avance sur la sortie d'un jeu.
Sachant que par année, on conçoit un ou deux jeux.
Est-ce que vous allez garder votre métier ?
Je pense que oui, David. Hein.
Ah bah, j'espère bien.
est-ce qu'il y a une suite de ce jeu Nekojima ? Et s'il n'y en a pas, est-ce que vous comptez en faire une ?
Il y a déjà une extension qui est sortie au mois de novembre. C'est l'extension Tori Pack. Ça va apporter plus de challenge dans le jeu.
En fait, un Tori, c'est un portail... c'est comme une porte rouge au Japon. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça à la télé ou peu importe. En fait, ça, c'est tenu par deux pieds avec un embranchement sur le dessus. Donc, c'est comme une grande entrée. Mmh. Et ce tori est un obstacle dans le jeu. C'est-à-dire qu'en début de partie, on va installer le tori sur le plateau et il faudra passer du coup en dessous ou au-dessus ou sur les côtés sans le toucher, sans le faire tomber. Il y a également un nouveau chat qui s'appelle le Mankiniko. Vous avez sûrement déjà vu ce chat dans les magasins. C'est celui qui bouge un peu la patte, d'avant en arrière, et qui est un chat porte-bonheur. Et ben en fait, ce chat blanc qu'on retrouve dans les magasins, et qui est un symbole au Japon, et ben lui va se balader de corde en corde. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va lancer les dés, qu'on aura le quartier violet, donc le quartier culturel, de Nekojima, on devra décrocher ce chat pour aller l'installer sur la dernière corde jouée, donc ça rajoute beaucoup plus de challenge.
D'accord. Est-ce que vous êtes en train de travailler sur un autre jeu ? Si oui, comment s'appelle-t-il ?
Comme je disais, on est sur un nouveau projet qui s'appelle Le chat et la tour.
Donc Le chat et la tour, c'est pareil, c'est un jeu de dextérité, un peu comme Nekojima, donc dans l'esprit, il ne faudra pas faire tomber la structure, mais là, pour le coup, on n'aura pas d'éléments en bois, on est un peu comme sur un château de cartes. Vous avez déjà joué à des châteaux de cartes étant enfant. Là, on va être sur une tour construite avec des cartes qu'on va devoir plier et on va construire des étages. Mais la tour va être complètement bancale, il faudra faire attention à ce qu'elle ne tombe pas. Et on aura aussi également des chats. Alors, c'était pas voulu, c'est les événements de la vie qui ont fait que. Mais en tout cas, il faudra faire monter son chat, qui s'appelle Neko, jusqu'au sommet de la tour, sans faire tomber la structure.
Est-ce que vous avez déjà créé d'autres jeux, à part Nekojima, qui ressemble un peu à Nekojima, les règles du jeu ?
Qui ne ressemble pas à Nekojima ?
Oui.
Ou qui ne ressemble pas ?
Qui ressemble.
Ah, qui ressemble. Qui ressemble, c'est le chat et la tour, mais on n'est pas les auteurs. Dungeon Exit, par son matériel, il est effectivement innovant. On va retrouver en fait des polyominos, c'est les formes Tetris que l'on peut voir. Et elles sont aimantées, c'est recto-verso. Et dans le matériel, ça reste familial. Ça peut faire penser effectivement à la ligne directive de Nekojima.
Et pour les jeux qui ne ressemblent pas à Nekojima ?
Alors, tu veux parler de Heroes of Tulai, David ?
Alors, Heroes of Tulai, il n'a rien à voir avec Nekojima en soi. Si on regarde bien Nekojima, on est sur un jeu familial, un jeu d'ambiance. On peut jouer avec ses grands-parents, avec ses neveux, avec ses oncles. Voilà, il faut pas besoin d'avoir étudié de longues années pour pouvoir jouer à Nekojima. Il est hyper accessible et c'était vraiment ce qu'on voulait. On voulait vraiment un jeu qui fédère, donc qui regroupe les gens autour de la table. Là, le dernier jeu qu'on a sorti, Heroes Love to Lie, donc les héros adorent mentir. En français, on va être sur un jeu de bluff, de rôle caché et d'identité secrète. En fait, il va falloir mentir. Donc, le fait de devoir mentir et de devoir jouer plusieurs rôles à la fois, pas forcément la carte que l'on a en main, nécessite peut-être d'être un peu plus joueur qu'à l'accoutumée. C'est-à-dire qu'on va s'adresser en fait à un autre public, à un public qui a l'habitude de jouer à des jeux un peu plus exigeants. Donc, en fait, dans le monde du jeu de société, on aura différentes catégories. On aura du coup les jeux enfants, les jeux familiaux, les jeux famille plus, les jeux initiés et les jeux experts. Nous, ce dernier jeu, on va dire qu'il est plutôt initié. Donc on s'écarte un peu du jeu famille. Mais ça ne veut pas dire que les familles ne peuvent pas y jouer. Mais ça sera juste un tout petit peu plus difficile pour les personnes qui ont l'habitude de jouer au jeu familial de pouvoir y accéder.
J'ai pas compris en fait, c'est quoi les jeux experts ?
Alors les jeux experts, c'est les jeux où généralement déjà on se casse la tête sur les règles. Souvent il peut y avoir de 1 heure à 3 heures, on va dire, de lecture de règles. C'est comme si tu devais apprendre un livre presque par cœur, tout en connaissant vraiment les mécaniques du jeu. Alors j'exagère beaucoup, hein. Mais on va parler de jeux vraiment exigeants, où il faudra faire attention à certaines mécaniques, et c'est des jeux qui parfois vont durer assez longtemps. Ça peut durer jusqu'à 7 heures de partie, quoi. Donc,
dans la plupart, effectivement, le jeu dit expert, ce sont des jeux longs, mais c'est aussi des jeux où il y a très peu de hasard, et ça va être surtout de la stratégie.
Et vous en avez déjà créé, des jeux experts ?
Non, non, non.
Quelle est la date précise de votre nouveau jeu ?
Alors, le chat et la tour, il va sortir au mois d'octobre. On n'a pas de date encore précise. Si tout se passe bien, ce sera début octobre.
Où se trouve votre atelier dont vous nous avez parlé tout à l'heure ?
L'atelier se situe à Pont-en-Royans. C'est là où on travaille.
Donc, c'est pas très loin d'ici, c'est à 25 minutes à peu près.
Merci d'être venu et merci de nous avoir fait part de vos projets. Merci d'être venu au collège La Passa sur Radio Lab. Et à très bientôt, j'espère.
Avec plaisir.
Merci, à bientôt.
Bientôt, merci.
À bientôt.
La rencontre s'est bien passée. Ils étaient gentils, ils nous ont bien précisé leur métier.
Et ça m'a surpris quand ils ont dit que leur métier, ça venait d'un rêve.
J'ai vraiment aimé cette rencontre et ça m'a vraiment donné envie de jouer à leur autre jeu.
Les jeux que vous nous avez présentés, ça m'a donné envie d'essayer d'y jouer.
Moi, j'ai bien aimé le fait qu'ils nous présentent d'autres jeux qu'ils ont créés.
Moi, j'ai bien aimé la manière dont ils nous ont présenté les jeux.
Merci d'être venu et j'aimerais bien jouer aux autres jeux.
J'ai adoré cette rencontre. Merci d'avoir pris du temps pour nous.
Merci d'être venu et on a hâte de jouer à d'autres jeux que vous avez faits.
On a hâte de vous revoir.
Je vous remercie d'être venu et j'espère que je vous reverrai d'autres fois ou plus tard.
Merci d'être venu au collège La Passa.